France Inter.
Je supporte pas l'assignation à résidence, en fait. J'aime le mouvement. Donc c'est pour ça que d'un roman à l'autre, j'ai envie que quelque chose se déplace. J'ai l'impression que j'ai besoin de trouver des formes qui contredisent un petit peu des fois le roman, qui vont un peu le chercher, un petit peu le titiller, un peu le... c'est-à-dire engager un dialogue à l'intérieur du travail.
Peut-être que je suis à la fois plus introspectif et en même temps plus ouvert vers les autres. C'est-à-dire que les questions que je me pose, je n'essaie pas de les résoudre nécessairement dans les films, mais de faire partager mes questions plutôt que d'apporter des réponses.
Heureux de vous retrouver et de passer à nouveau cette année avec vous. Est-ce que vous avez passé un bon été? Est-ce que vous avez lu? Sans doute. Nous aussi. D'ailleurs, j'ai choisi pour commencer la saison un roman passionnant signé d'un auteur qui reçut en 2001 le prix du Livre Inter pour Apprendre à finir. Ce nouveau, ce beau, ce grand roman, c'est La Maison vide de Laurent Mauvignier. Bonjour Laurent.
Bonjour.
Roman de 744 pages. Vous a-t-il fallu un été pour vous remettre?
Je sais pas si je suis encore remis, en fait.
C'est le premier roman aussi long, même si le précédent était aussi un roman dense. Histoire de la nuit.
Oui, mais il y a parfois des livres courts qui peuvent sembler plus longs à écrire.
Donc la distance, la durée, la longueur, non. N'est pas un sujet.
Non, c'est pas un sujet.
Roman qui fait revivre vos aïeux depuis le début du XXe siècle. Vous auscultez la branche paternelle, vous dessinez une fresque familiale, historique et intime. Et vous avez choisi comme invité un cinéaste, un comédien, un romancier aussi. Bonjour Lucas Belbeau.
Bonjour.
Réalisateur entre autres de Un couple épatant, Cavale, Pas son genre, Des hommes, d'après le roman de Mauvignier donc, et bientôt un film adapté de votre propre livre, Les Tourmentés, c'est Le Grand Atelier.
France Inter, Le Grand Atelier, Vincent Josse.
Laurent Mauvignier, vous me pardonnerez cette voix un peu enrhumée en plein mois d'août, c'est ridicule. Est-ce que vous écrivez toujours sur le bureau que vous aviez enfant, Laurent?
Oui. Mon bureau, il me suit partout depuis des années. J'en suis quand même à mon 32e déménagement et il m'a suivi à peu près pour les 32 déménagements.
Oui, c'est vrai que Laurent Mauvignier est un nomade.
Un nomade, c'est quand même beaucoup dire, mais je fais des sauts de puce. Mais c'est vrai que j'ai eu une période où j'ai beaucoup déménagé. Ouais.
On vous a connu à Toulouse, on vous a connu à Rennes.
À Bordeaux, à Tours, à
Bordeaux,
Paris.
À Tours. Et aujourd'hui, c'est ?
Aujourd'hui, c'est Rennes et Paris. C'est un peu dans le train, en fait, à vrai dire.
Oui, c'est ça.
Et là, j'ai pas mon bureau.
C'était une pub pour la SNCF aujourd'hui. Pourquoi ce bureau? Parce que vous avez besoin, à chaque fois que vous vous mettez au travail, car c'est un travail que d'écrire, vous avez besoin de retrouver quelque chose de l'enfance ou des sensations de l'époque?
C'est vrai que ça, écrire a un rapport à l'enfance, mais c'est un rapport, j'allais dire, géographique à l'enfance. Et c'est pour ça que c'est lié à ce bureau, à des choses comme ça, des objets, des... J'ai l'impression que c'est toujours un peu un enfant qui écrit le livre, en fait.
J'étais venu vous voir il y a des années à Toulouse, en reportage, et vous écriviez face à un mur. Il n'y avait pas de fenêtre pour vous distraire, et vous me disiez, j'écris, je prends ma feuille, je relis, et je jette dans la corbeille. Et effectivement, il y avait des feuilles dans la corbeille. Est-ce que c'est toujours la même démarche?
Je dépense beaucoup moins de papier qu'avant, en fait. Ce qui a changé, c'est que dans l'écriture, j'ai l'impression d'avoir acquis une souplesse que j'avais pas forcément quand vous étiez venu. Et donc, j'ai moins ce problème-là. J'ai l'impression que les livres s'écrivent plus naturellement. Je dirais pas plus facilement, parce qu'ils sont plus complexes d'une certaine manière, mais il y a quelque chose, au bout de 25 ans, j'ai l'impression de commencer à un peu savoir où je vais, quoi.
Est-ce que c'est une façon de minauder un peu, ou est-ce que c'est la réalité ? De dire, j'ai l'impression de commencer à appréhender les choses après 25 ans.
Ah non, pour moi, c'est très concret, quoi. C'est-à-dire que si les livres sont plus amples aujourd'hui, c'est aussi parce que j'ai l'impression que je peux partir dans plus de directions. Je suis moins dans les monologues en partant sur une troisième personne. J'ai l'impression de pouvoir mettre une distance qui me permet d'ouvrir un jeu plus complexe et plus riche aussi, et peut-être plus accessible pour le lecteur, tout en étant plus complexe dans la phrase et même dans les thèmes des livres abordés. Donc je me sens plus à l'aise dans mon art.
Lucas Belbeau, vous avez à peu près le même âge, enfin, un tout petit peu plus, la soixantaine on va dire, et vous faites du cinéma depuis un petit moment, d'abord comme comédien, même si c'est moins le cas maintenant, et comme réalisateur, combien de films en tout? Une bonne dizaine?
Des films pour le cinéma, comme réalisateur, j'en ai fait 12.
Oui, c'est ça. Ouais. Est-ce que vous avez le sentiment de maîtriser mieux ou autrement les choses en tant que cinéaste?
Oui, mais je pense que ça vient aussi, et un peu pour Laurent comme pour moi, comme on a des trajectoires, enfin des origines. C'est pas exactement la même chose, mais un peu pareil.
Populaire.
Ouais. Et donc, il y a la question de la légitimité. C'est est-ce qu'on est légitime à faire ce qu'on est?
Alors, vous avez réglé ça?
Oui. Et lui aussi.
Donc la réponse est oui, je suis légitime.
Mais c'est avec le temps, après un film, deux films, trois films, il y a un moment où on se dit, mais oui, c'est mon métier, je le fais bien, je le maîtrise, et je suis légitime là où je suis, bien sûr.
Moi, il y a une chose que je crois, c'est que quand on éprouve dans la vie des souffrances, quelles qu'elles soient, des échecs, en fait, et qui parfois nous portent justement vers une sorte de réparation qui serait notre travail, j'ai quand même l'impression que ça, en fait, ça ne se répare jamais. Alors, d'une certaine manière, heureusement, parce que c'est ce qui fait qu'on continue toujours à essayer de trouver comment vivre, en fait, comment vivre, voilà.
C'est beau de dire que l'art permet de réparer ou de tenter de réparer, Lucas Bellevaux.
Oui, bien sûr. En fait, c'est une réparation qui vient avec une mise à distance. Je sais que, par exemple, entre Laurent et moi, on travaille pas exactement de la même façon. On n'aborde pas nos blessures ou nos failles ou ce qui nous fait écrire de la même façon. Lui, il y va très frontalement. Moi, je mets beaucoup de distance. Je parle pas de moi. Ce qui me tarabuste, je dirais, oui. Je le cache. C'est dans mes films et en contrebande.
Le spectateur ne le sait pas forcément, alors non. Que chez Laurent Mauvignon, qui vient d'un milieu populaire. Le père était ouvrier, votre père était ouvrier, Laurent. Il s'est suicidé quand vous aviez 16-17 ans. Par exemple, ce suicide est quelque chose de récurrent, et on le sent, on le devine. Vous n'apportez pas de réponse, vous ne savez pas profondément pourquoi. Et pourtant, beaucoup de vos romans sont traversés par cette question, par ce pourquoi.
Oui, mais parce que ça recoupe aussi beaucoup d'autres questions plus générales. C'est-à-dire que, par exemple, quand on est un adolescent de 15-16 ans et que son père se suicide, c'est difficile de se construire soi-même en tant qu'homme à venir, quoi. Et donc, ça pose énormément de questions. Moi, c'est vrai que souvent, on pose la question de la place des femmes dans mes livres ou pourquoi, par exemple, un livre comme « Apprendre à finir », donc... pourquoi je prenais la voix d'une femme pour écrire, mais je me disais, mais au fond, c'est parce que finalement, les modèles masculins, j'en ai pas eu tant que ça.
Et puis, votre père était un taiseux, en plus.
En plus, voilà, et puis il n'était pas le seul, hein, je veux dire, milieu populaire, la campagne, etc., milieu, côté un peu paysan, un peu dur, quoi. Ouais, c'était difficile pour moi de me reconnaître, et puis en plus, on m'invitait à ne pas me reconnaître, c'est-à-dire, là-dedans, on me disait, mais il faut surtout ne pas être comme nous. Ne sois pas ouvrier, à la ville et puis il faut avoir un vrai travail, quoi. Faut que tu fasses des études, ne sois pas comme nous, quoi. Donc c'était des injonctions. Et puis, les représentations que je pouvais avoir des hommes et de mon père, notamment, c'était des représentations douloureuses.
Oui.
Donc c'est vrai que ça faisait pas forcément difficile de se projeter là-dedans, quoi.
Je vous demandais si vous travaillez toujours sur votre bureau d'enfant. J'imagine que vous ne travaillez pas en musique, toujours pas.
Ah, toujours pas, non. Mmh. Non, toujours avec les boules qui est.
Oui.
Toujours, il n'y a pas assez de silence, en fait.
Il faut la musique, laisser rentrer la musique de vos personnages et de la langue.
Ouais. Hein? Ouais. Oui, il paraît que c'est totalement affreux à voir quand je suis en train d'écrire, parce qu'en fait, je bouge. Mais comme si j'étais en train de taper sur une batterie, c'est juste, moi c'est le rythme de la phrase qui fait venir tout le reste. Hein.
En changeant de livre en livre, de musique à chaque fois, je trouve.
J'ai du mal à savoir
ça. On va en parler, parce que pour moi c'est un nouveau Mauvignier que j'ai lu là, et on va parler de tout ça avec vous. Et Lucas Bellevaux qui a lu votre roman, et vous avez d'ailleurs vu son film Les Tourmentés, qui sortira quand?
Le 17 septembre.
Être sourd, pas que tu ignore quand il dit il faut courir, quand il dit il faut dormir, ou courir ou dormir, tout ce qu'il a à te dire. Aussi. Toujours bien écouter s'il frémit, s'il s'emballe, s'il s'affole ou s'il ralentit, somnole. Il faut toujours l'écouter, ça oui. Ne pas le nier, à mon avis. En deux mots, il faut tendre l'oreille, c'est tout. Courir. Quand il dit il faut dormir, quand il dit il faut courir, quand il dit il faut dormir.
Mathieu Bogaerts sur France Inter, il faut toujours écouter son corps.
Le Grand Atelier, Vincent Josse sur France Inter.
En 1976, mon père a rouvert la maison qu'il avait reçue de sa mère, restée fermée pendant 20 ans. À l'intérieur, un piano, une commode au marbre ébréché, une légion d'honneur, des photographies sur lesquelles un visage a été découpé au ciseau. Une maison peuplée de récits, où se croisent deux guerres mondiales, la vie rurale de la première moitié du XXe siècle, mais aussi Marguerite, ma grand-mère, sa mère, Marie-Ernestine, la mère de celle-ci, et tous les hommes qui ont gravité autour d'elle. Toutes et tous ont marqué la maison et ont été progressivement effacées. J'ai tenté de les ramener à la lumière pour comprendre ce qui a pu être leur histoire et son ombre portée sur la nôtre.
Laurent Mauvignier, lisait la quatrième de couverture de La Maison Vide, son nouveau roman chez Minuit. Dans cette maison familiale subsistent donc quelques objets, dont un piano, une médaille, et par votre baguette magique d'écrivain, vous animez ces objets, vous animez les pièces de cette maison, de la vie qui a sans doute existé depuis le début du XXe siècle. Vos aïeux deviennent des personnages qui vivent dans un milieu rural. Certains vont s'enrichir sur le dos des paysans pauvres, d'autres vont mourir à la guerre, des femmes vont subir des affronts, il va y avoir un peu de joie mais aussi pas mal de douleur. Est-ce qu'il y a eu vraiment un élément déclencheur à ce roman, Laurent Mauvignier?
Alors, moi, il m'en faut toujours deux ou trois éléments déclencheurs, sinon je n'arrive pas, il faut que j'ai des chemins à parcourir. D'un côté, j'avais cette question de cette légion d'honneur, et puis de l'autre, j'avais les récits de ma mère. Ma mère m'a toujours raconté beaucoup d'histoires, c'est comme ça que j'ai écrit des hommes, etc. Donc ma mère m'a beaucoup nourri.
Votre mère se souvient de la mémoire familiale?
Elle s'en souvient, mais ce qui est génial, c'est que même enfant, je savais qu'en même temps, elle l'inventait au même temps où elle me l'a raconté, puisque les versions étaient parfois tellement différentes les unes des autres que...
C'était une romancière, votre mère?
Peut-être un peu, ouais. Oui. Mais c'était, en tout cas pour moi, tellement... c'était à la fois très troublant, mais je me disais jamais qu'elle mentait. Parce qu'à chaque fois, la façon qu'elle avait de dire les choses portait vraiment la vérité du moment où elle le disait. Et donc, à chaque fois, je me disais, là, ça ne se passe pas au même endroit que la dernière fois, ou il ne se passe pas tout à fait la même chose. Mais je me disais, mais il y a quelque chose de vrai, malgré tout, à l'intérieur de ça.
Mais ça vous donnait la définition de l'écrivain?
Moi, c'est quelque chose qui me touchait, que je trouvais beau, en fait.
Quand vous écrivez sur vos arrière-arrière-arrière-grands-parents, puis sur vos arrière-grands-parents, puis sur votre grand-mère, qui est morte d'alcoolisme, comme on disait, quand elle avait une quarantaine d'années.
41 ans. Ouais.
Une femme qui a été tendue à la libération sous les yeux de son fils, qui était votre père. Il y a forcément de la fiction que vous ajoutez à la véracité des faits.
Mais le livre, il commence vraiment avec l'image effectivement de mon père, mais qui est un enfant de 7 ans, en train de regarder sa mère se faire tondre. C'est-à-dire que quand j'ai cette image-là, ma mère m'a raconté ça, je ne sais pas combien de fois, et à chaque fois, ça changeait un peu. Là, ça se passait devant la mairie, une fois, ça se passait devant les papeteries. Une fois... Bon, mais ce que je voyais, en tout cas, moi, c'était cet enfant en train de regarder quelque chose d'horrible que moi-même, je ne voyais pas, qui était une sorte de... en contre-champ, hors-champ, quoi. Donc ça, ça a vraiment nourri ce livre depuis... Enfin, j'allais dire presque depuis ma propre enfance, en fait. C'est un livre que j'attends depuis longtemps.
Je sais que vous pouvez passer parfois 15 heures à corriger une phrase ou une page. Est-ce que ce livre de 744 pages, on parlait d'une somme tout à l'heure, est-ce qu'il est venu facilement, est-ce que, sous vos doigts? Est-ce que, comme il était dans votre tête depuis si longtemps, est-ce que ça a coulé quand vous avez écrit?
En fait, ça a coulé à partir du moment où j'ai trouvé comment le construire. Comment le structurer. C'est-à-dire que je ne voulais pas, par exemple, parler des 20 ans comme ça, entre les deux guerres, dans un monde où les choses sont très répétitives, mariage, enterrement, mariage, enterrement, mariage, enterrement. Comment faire pour que ce soit malgré tout vivant, intéressant, et qu'on puisse être dans, surtout dans un projet ample, ne pas s'endormir, ne pas avoir ce côté un petit peu ventre mou, et être toujours dans quelque chose d'actif, y compris dans des temps qu'on pourrait considérer un petit peu morts. Je ne voulais pas faire juste un truc chronologique, dire bon, 1930 il se passe ça, 1932... Bon, ça m'ennuyait, je voulais faire quelque chose vraiment en mouvement qui unifie l'ensemble. Quoi. Donc une fois que j'ai à peu près résolu ces questions-là, la question aussi du narrateur, c'est-à-dire cette personne qui va porter le récit au présent et pouvoir remonter comme ça les périodes, les strates de temps, comme ça jusqu'à très loin en les imaginant. Une fois que j'avais trouvé ça, c'est parti. Là, effectivement, c'était très fluide à tel point que je me suis retrouvé. Là, on est à 740 pages, mais c'est la version courte, en fait. Hein. Je sais pas, j'avais 1100 pages, 1200, j'en sais
c'est
rien.
C'est votre éditeur qui vous a dit « calme-toi, Laurent ».
Il me l'a un petit peu dit, c'est vrai. Il avait raison, hein, d'ailleurs. Il avait totalement raison. Mais c'est aussi parce que je sais que c'est toujours une étape. Moi, j'ai pas du tout l'angoisse de la page blanche. C'est l'inverse. Moi, j'ai l'angoisse de la page noire. C'est-à-dire que, d'un seul coup, j'ai jamais assez de place parce que je suis totalement envahi par le monde que je veux décrire, je suis complètement submergé par ça. Et puis j'ai une peur atroce de terminer mes phrases, parce que j'ai toujours l'impression qu'elles sont nulles, donc il faut que je me dis, ah, c'est peut-être pas, il me manque quelque chose, c'est pas ça, c'est, voilà. Donc puis un point, c'est toujours un point forcément final, et c'est horrible, quoi, comme idée. Donc je peux pas. Et donc après, c'est là, effectivement, que je passe environ 10-15 heures, mais j'adore ça, c'est là, totalement fastidieux, laborieux, etc. Mais j'adore ça, parce que il s'agit d'aller à l'intérieur de la phrase, de nettoyer, d'enlever des répétitions. Et puis, c'est très valorisant parce que, d'un seul coup, vous lisez une phrase qui remonte un peu comme la photo argentique, comme ça, où on voyait l'image apparaître. Là, c'est vraiment de cet ordre-là, quoi. D'un seul coup, vous enlevez tout le gras, tout ce qui est superflu, et puis d'un seul coup, ça prend sa place, et la phrase est ciselée. D'un seul coup, elle est visible, elle a quelque chose qui peut devenir un peu rayonnant. Ça, c'est un moment qui est très jouissif pour un auteur.
Lucas Bellevaux, cinéaste, oui. Est-ce que ça vous parle, ce métier d'écrivain exprimé à l'instant par Laurent Mauvignier?
Ah, mais non seulement ça me parle, mais ça m'émeut. Enfin, je trouve ça très beau, la façon dont il parle au cinéma. Nous, on vit ça plus au montage. C'est-à-dire qu'on va reprendre une séquence 20 fois, 30 fois, 50 fois. On revoit le film, on reprend les séquences. Et donc, oui, mais c'est le cœur du travail, c'est le moment où tout à coup le livre ou le film va prendre sa forme, et c'est le moment où on décide de ce qu'on fait passer au spectateur ou au lecteur. Et on parle beaucoup, je trouve, trop des 750 pages du livre, ce qui peuvent faire peur, mais en fait c'est comme si à l'intérieur...
Si j'en parle, Lucas Bellevaux, pardon de vous couper, c'est que j'ai rencontré beaucoup de camarades à la radio qui m'ont dit « Oh, c'est trop gros pour moi, 740 pages », et j'ai essayé de les convaincre depuis quelques jours.
Et c'est pour ça que je voulais revenir dessus, c'est que c'est un livre, on le voit, ça fait peur, et une fois qu'on rentre dedans,
voilà.
Il y a plein d'histoires, il y a plein de récits, c'est comme s'il y avait plusieurs romans à l'intérieur, qui s'enchaînent, mais qui s'enchaînent de façon extrêmement fluide.
Il y a plusieurs vies qu'on suit.
Il y a plusieurs vies.
De façon haletante.
Absolument. Et j'ai retrouvé, enfin là, ça m'a saisi sur ce roman-ci de Laurent, c'est qu'il a quelque chose à voir avec, dans l'écriture, avec Simenon dans ses très grands romans. C'est-à-dire que le suspense vient pas tant de la situation, ou même des personnages, même s'il y en a, hein, mais dans les très grands romans de Simenon, le suspense tient dans la phrase, tient dans l'écriture, il vient dans l'introspection. Il y a des choses extraordinaires. On est tenu par la parole et par l'écriture.
Moi, j'ai eu même l'impression qu'il faisait son grand roman, Laurent Mauvigné, on fait comme si vous n'étiez pas là.
Oui, c'est...
Qu'il faisait...
Je n'étais pas ici, c'est très bien.
Déguste.
Allez, allez prendre un café, Laurent. Et qu'il faisait son grand roman du 19e. J'avais l'impression parfois d'être chez Proust, j'avais l'impression d'être chez Flaubert, et j'ai même eu l'impression souvent d'être chez Balzac.
Monsieur Grandet obtint alors le nouveau titre de noblesse que notre manie d'égalité n'effacera jamais. Il devint le plus imposé de l'arrondissement. Il exploitait 100 arpents de vigne qui, dans les années plantureuses, lui donnaient 700 à 800 poinçons de vin. Il possédait 13 métairies. Une vieille abbaye où, par économie, il avait muré les croisées, les ogives, les vitraux, ce qui les conserva. Et 127 arpents de prairies où croissaient et grossissaient 3000 peupliers plantés en 1793.
Un extrait d'Eugénie Grandet, il y a ce plaisir que vous prenez, semble-t-il, parce qu'on le prend nous aussi en vous lisant, Laurent Mauvigné, à décrire des choses très précises de la vie quotidienne, autant que des états psychologiques, des douleurs, des souffrances, des ressentis, des frustrations. Les deux sont dans votre roman. Mmh. Vous allez me dire, c'est le travail du romancier, mais quand même.
Bah oui, après, ce qui est vrai, c'est que quand je vous entendais tout à l'heure, même si j'étais parti boire mon café, je vous entendais quand même. C'est vrai que la question du roman, le gros roman, etc., j'espère effectivement que c'est extrêmement important pour moi, que ce soit un plaisir de lecture. Dans le sens où c'est pas simplement pour dire faire un livre qui soit agréable à lire, c'est très bien, mais enfin, c'est une nécessité. La nécessité de retrouver, en allant chercher dans des histoires familiales, en allant chercher dans un passé qui pourrait ne concerner que moi, mais j'ai envie de dire, on s'en fiche de ma petite personne là-dedans. Ce qui compte, c'est aussi d'aller chercher dans une histoire collective, et pas seulement sur les périodes de la guerre, mais aussi dans notre imaginaire collectif. Et notre imaginaire collectif, oui, il y a Proust, oui, il y a Balzac, oui, il y a Flaubert, il y a aussi des films, il y a aussi de la peinture, il y a aussi...
Vous travaillez avec tout ça ?
Ah bah oui, pour moi ça fait partie de, j'allais dire ça fait partie de ma mémoire, mais comme ça fait partie d'une mémoire qui ne m'appartient pas qu'à moi, qui appartient à tout le monde, il y a mes histoires entendues par ma mère, mais il y a les histoires lues dans des tonnes de romans et vues dans des films.
Alors, je n'ose pas trop déflorer ce qu'il y a dans ce roman, même s'il y a encore une fois pas mal de pages, mais je voudrais au moins parler de Marie-Ernestine, qui était votre arrière... Grand-mère.
Ouais.
Marie-Ernestine, c'est quelqu'un qui est passé à côté de sa vie, mais c'est pas elle qui est passée à côté de sa vie, on l'a empêchée de vivre sa vie. Sa vie, c'était celle qu'elle aurait voulu mener, une vie de pianiste, de concertiste, et puis vivre avec son professeur de piano qu'elle a tellement aimé et qu'il l'a aimé. Mais on lui a dit, ma chérie, d'accord, on t'achète un piano, mais tu fais pas le conservatoire, ça c'est n'importe quoi. Tu restes à la maison et tu épouses un tel. Et elle a dû se soumettre à l'autorité parentale. D'ailleurs, j'ai vécu vraiment ce roman comme un roman non pas féministe, mais féminin, à travers ces figures de femmes qui sont vos aïeules. Vous montrez quand même l'importance du patriarcat, comme on dit aujourd'hui, et l'obligation pour les femmes dans ce XXe siècle d'admettre qu'elles doivent suivre une tradition et suivre l'autorité du père.
En fait, moi, j'ai essayé de comprendre, peut-être en partant de l'histoire de mon père, mais en essayant de comprendre sa mère, parce que mon père ne m'a jamais parlé de sa mère. Absolument jamais.
Alors, je rappelle que sa mère est morte alcoolique, jeune, à 40 ans.
41 ans.
Et qui est cette femme qui avait été tendue parce qu'elle avait couché avec un amant.
Voilà. Donc, bon, ça, c'est une espèce de tabou dans l'histoire familiale. Mais quand j'ai essayé de la comprendre, elle, non pas pour la justifier ou quoi que ce soit, mais pour essayer de comprendre un peu le mécanisme de ça, et comprendre un peu ce silence autour de cette histoire. Bon, finalement... Je n'ai fait que reporter le problème, en fait. Pour comprendre mon père, j'ai eu besoin d'aller voir sa mère. Et puis quand une fois que j'ai commencé à m'intéresser à sa mère, bah, évidemment, j'étais obligé de voir sa propre mère à elle aussi, en fait. Et je suis tombé sur Marie-Ernestine, qui, finalement, m'a dit dans le roman, quand j'ai commencé à écrire, m'a dit, je vais prendre beaucoup de place. Je te préviens, mon petit gars, je vais prendre beaucoup de place.
Oui, c'est vrai.
Et donc, il se trouve que, d'un seul coup, j'ai découvert que Marie-Ernestine avait des choses à dire. Et c'était... En fait, très important, parce que ce que dit Marie-Ernestine à ce moment-là, entre elle et sa fille, c'est-à-dire que j'ai l'impression que la fille prolonge un peu l'échec de la mère, quoi. C'est-à-dire la mère se résout finalement à suivre ce qu'on lui dit de faire.
Le diktat familial.
Voilà. Ce à quoi ne se résoudra pas Marguerite. au fond. Donc pour moi, c'était très important. C'est pas seulement une histoire mère-fille, c'est aussi une histoire de comment les deux destins se... ont quelque chose un petit peu en miroir et au fond prolongent quand même un mécanisme. Et
finalement, comment chacune réagit à la société.
Voilà. Et c'est vrai qu'il y a aussi, du coup, la grand-mère de Marguerite, ouais. qui, au départ, quand on ouvre le livre, est toujours appelée la préposée aux confitures et aux chaussettes à repriser.
Je vais même vous citer l'ombre préposée aux confitures et aux chaussettes à repriser. L'ombre. Et un jour, elle ira dans la lumière, cette femme.
Ouais.
On ne dit pas pourquoi, mais ce sera puisque les hommes seront à la guerre.
Voilà.
D'ailleurs, les hommes qui partaient à la guerre étaient remplacés par les femmes.
Ouais.
Et on entendra dans un instant un témoignage d'une femme qui a travaillé à la place des hommes pendant la guerre 14. Je voudrais d'abord qu'on imagine ce qu'a pu jouer Marie-Ernestine au piano. Alors moi, je n'ai pas arrêté de fantasmer sur ce qu'elle a pu jouer, son amour pour son prof platonique, mais pas si platonique que ça. Enfin, cette relation brûlante entre deux. Et j'imaginais que tous les deux installés au piano, sans que personne ne les écoute, ils jouaient ça. Un extrait de la fantaisie en fa mineur opus 103 D940 de Franz Schubert à quatre mains, Philippe Cassard avec Cédric Péchia. Schubert, quelques secondes, quelques minutes de bonheur dans la vie de Marie-Ernestine, on peut l'imaginer aussi quand elle était au piano avec son professeur, Laurent Mauvigné.
Ah bah oui, moi j'ai passé beaucoup de temps à l'imaginer, et à l'imaginer heureuse en fait, parce que c'est vrai que quand on raconte le livre comme ça, on a quand même l'impression que tout est d'une... On se dit non seulement c'est long, mais en plus ça a l'air sinistre. Alors qu'en fait, j'espère pas, je crois pas.
Je ne crois pas non plus.
Non, parce que c'est un livre qui... Tout à l'heure, on parlait de la question de la fluidité et de cette façon d'entrer dans le livre. J'espère que les personnages et les situations font qu'on y a suffisamment d'amour dedans pour que tout ce qui peut être dur, sombre, etc., soit, non pas contrebalancé, mais soit dans un monde suffisamment riche, complexe, pour que ces histoires, on les prenne à notre propre compte.
Bien sûr, on peut se retrouver, on peut retrouver notre histoire familiale aussi.
Oui, mais c'est important, ça, pour moi.
Et puis, on voit aussi à quel point l'histoire, avec un grand H, abat un peu les petites histoires, les histoires humaines, font souffrir, casse, amène le chaos.
Oui, mais c'est, par exemple, pour moi, c'est des questions aussi, on lit plein de livres, on voit plein de films, ça, on se dit, ben, 14-18, on connaît, quoi. Sauf que, à un moment, vous vous dites, la mobilisation. Vous vous posez la question de ça, mais il se passe quoi le soir où les gens, ils étaient en train de travailler chez eux à la ferme et tout ça, on leur dit, hop, demain tu pars à la guerre. L'homme qui doit partir le lendemain, qu'est-ce qu'il dit à sa femme? Qu'est-ce qu'il dit à ses parents? Qu'est-ce qu'on se raconte? Comment on dort ce soir-là? Comment on se réveille le lendemain matin? Et quand on part en permission, 6 jours de permission, là dans le cas de Jules, il a 6 jours de permission, il revient dans sa ferme, ça fait 3 ans qu'il est parti.
Jules, c'est le mari imposé à Marie-Ernestine. Oui. Vous en parlez comme si c'était un proche, mais c'est un proche.
Oui, j'oublie, effectivement.
C'est un arrière-grand-père.
Et c'est vrai, on se dit, il revient en permission, on se dit au début, il se repose, et puis finalement, il voit qu'on se passe très bien de lui, en fait. Le travail, il est fait.
Oui.
Et c'est un homme qui vit pour son travail, et d'un seul coup, il voit quand même que, en fait... La guerre est en train de montrer qu'il n'est pas si indispensable qu'il le croyait.
Une double violence, la guerre plus cette prise de conscience.
Voilà.
À propos de ces femmes qui prennent le travail des hommes, puisqu'il faut bien vivre, notamment à la campagne, on a retrouvé ce témoignage d'une vieille paysanne qui s'appelait Justine d'Anguilhem. En 91, sur France Culture, elle avait 94 ans, elle était veuve, et elle racontait ce moment où les femmes sont obligées de travailler dans les champs.
J'avais 2 frères à la guerre. Et j'étais toute seule à exploiter la propriété de nos parents. Et je vous assure que j'en ai bavé. Et je pleurais de revenir à la terre. Et il a fallu traire les vaches. Et il a fallu les dompter. Et on n'avait pas de feu, on n'avait pas de machine. Mais j'étais assez costaude. Et je fauchais moi-même avec une faux.
Et alors, vous avez tué le cochon vous-même?
Il fallait bien qu'on mange. Il a bien parlé des cochons. On avait bien un boucher qui vendait un peu de viande, mais si on avait dit que ça, on tuait 2 cochons chaque année. Nous étions que des femmes. Et on avait quelquefois quelques-uns qui venaient nous aider, qui avaient eu la chance de ne pas aller à la guerre, qui étaient un peu trop vieux. Mais il a fallu résister là, jusqu'en 1919. Eh bien, j'ai résisté, je ne suis pas morte.
C'est l'accent du Cantal, ça, c'est beau, hein, comme témoignage. Ouais, c'est très émouvant, je trouve. Et ça ressemble à votre livre. Lucas Bellebaud, on a plein d'images qui viennent quand on lit La maison vide de Laurent Mauvillier.
Oui, oui. Et puis, moi, ce qui me passionne, c'est les différentes couches, c'est les différentes perceptions, enfin, au moment où on perçoit différemment les choses. Que Laurent dit, finalement, Jules, il se rend compte qu'il n'était pas si indispensable que ça. Et c'est vrai que matériellement, c'est le cas. Mais en même temps, on prend conscience qu'il était beaucoup plus indispensable que ce qu'il croit pour sa petite fille. Ouais. Et qu'il y a un truc qui se joue là, dont il prend conscience aussi lui, dont elle va prendre... Et donc, prend conscience le lecteur, c'est que tout à coup, affectivement, ces personnages, dont on dit, ils s'aiment pas tant que ça, c'est des mariages forcés, c'est un enfant qui arrive par hasard, qui a pas été voulu. Et puis on se rend compte que finalement, il y a quelque chose d'extrêmement fort dont ils prennent conscience et qui va se dissoudre immédiatement parce que la guerre est là. Et là, c'est un moment du livre qui est extrêmement fort et poignant. Moi, ça m'a beaucoup ému.
Vous avez adapté au cinéma Lucas Bellebaud Des Hommes, où il était question du père aussi de Laurent Mauvignier, cette question non résolue des hommes qui se sont tus en revenant de la guerre d'Algérie parce que c'était trop difficile à exprimer. Et on a tous, les gens de notre génération, c'est le cas Laurent et moi, connu des pères qui ne parlaient pas de la guerre d'Algérie. Et on est sans réponse par rapport à leur vie. Est-ce que vous qui avez réalisé ce film, vous vous êtes dit, je pourrais aussi, là, à travers les non-dits exprimés par Laurent, faire un film de ce livre « La maison vide » ?
Oui, moi je réagis toujours en retard, c'est toujours très très long, entre le moment où je lis et le moment où j'ai envie d'adapter, il faut que ça travaille, quoi. Mais bien sûr, mais le problème de la mise en vide, enfin le problème si c'en est tant, c'en est peut-être pas un, c'est qu'on pourrait faire 3 films, ou une série peut-être, c'est peut-être plus quelque chose qui se prête à la série, en plus aujourd'hui il y a des séries de qualité, et je pense que la mise en vide, ça se prêterait plus probablement à une série qu'à...
Qu'est-ce que vous en pensez, Laurent Mauvignier, vous qui aimez autant la littérature que le cinéma? D'ailleurs, vous avez déjà été adapté à 2 reprises au moins au cinéma, et puis souvent au théâtre aussi.
Ouais. au moment où je suis en train d'écrire, j'ai toujours cette petite tentation de faire un livre totalement inadaptable. Ou peut-être inadapté, je ne sais pas, mais de faire un petit pas de côté. Il faut qu'il y ait quelque chose d'un petit peu irréductible quand même. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir s'en emparer, chacun comme un lecteur s'en empare d'ailleurs. Mais le livre doit quand même faire un petit peu sa mauvaise tête. Pour dire, bon, quand même, je ne vais pas me laisser attraper comme ça si facilement. Il faut aussi que ce soit un objet de littérature d'abord.
Lucas Bellevaux est mignon parce qu'il lève le doigt pour parler.
Oui, parce que je voulais rebondir et pas le couper, et pas vous couper vous non plus. Mais je pense que ce qui est irréductible dans ses livres et dans sa littérature, c'est justement la littérature, c'est la forme, c'est le style. Ça, c'est irréductible, c'est inadaptable. Et donc, quand on travaille sur un livre de Laurent ou sur n'importe quel grand livre, il faut faire le deuil du style et de voilà, on adapte pas un style, on adapte autre chose. Des personnages, des sujets, une structure, mais pas un style.
Ah, c'est pas tout à fait vrai à propos des hommes, Lucas Bellevaux, parce que dans Des Hommes, donc ce sont ces soldats qui sont aujourd'hui des vieux messieurs, qui ont toujours en eux cette souffrance de la guerre d'Algérie, mais qui ne l'expriment pas par des mots, plutôt par des brusqueries et de la violence. Il y a à la fois le temps de la guerre d'Algérie, on les voit dans le livre, le jeune homme en train de se battre, et même de se battre entre eux. Ouais. Et puis il y a le temps d'aujourd'hui, de ces vieux messieurs au ventre rond et le dos un peu courbé, joués parmi les protagonistes essentiels par Depardieu et par Jean-Pierre Darroussin. Et il y a ces voix qui sont très présentes dans les romans de Laurent Mauvignier, moins cette fois, mais dans les précédents. Et on va écouter par exemple la manière dont vous vous emparez de ces voix dans Des Hommes, Lucas Bellevaux.
Le chaos, la haine, les attentats jusqu'au bout du bout, les corps éclatés, les cris, les larmes, les fous furieux de l'OAS qui traînaient dans les rues pour liquider les Européens qui voulaient partir ou les musulmans qui venaient travailler. Les massacres, les charniers, les pieds noirs lynchés, enlevé, disparu à tout jamais. Personne ne voulait savoir. Nous, on savait. On n'a rien dit.
Et puis on est rentré, ramené des cadeaux, des roses, des sables, des services à café. Les autres n'ont pas posé de questions. Ou des questions à la con. Si c'est grand un chameau, si c'est plus gros qu'une vache. Si c'était vrai que les musulmanes se rasent le sexe.
Voilà, on peut donc retrouver une langue, Lucas Bellevaux.
Oui, mais là, je ne suis pas sûr que ce soit exactement les mots de Laurent, ou ses phrases.
Non, mais en tout cas, c'est le côté voix off qui existe aussi dans les romans de Mauvignier.
Oui, mais quand même, je pense qu'on ne retrouve pas le souffle de sa phrase. C'est un style. Donc j'ai essayé de...
Il faut faire son deuil de ça.
Ouais, vraiment. Et donc, moi, j'ai essayé de rendre compte un peu de ça, cette idée-là, mais surtout de l'idée de la mémoire, du souvenir, du ressassement. Parce que Laurent, c'est aussi un grand ressasseur dans ses livres. Et donc, j'avais envie de ça, de cette espèce de pensée ou de réflexion intérieure qui fait qu'on revient sans arrêt sur un événement, sur un souvenir, sur quelque chose, et qui fait que ça prend toute son importance. Parce que le livre, il raconte aussi ça, enfin, ce que racontait aussi en partie Des Hommes, c'est à quel point notre histoire dépend de celle de ceux qui nous ont précédés. C'est-à-dire que ce qu'on vit aujourd'hui, ça vient aussi de ce qu'ont vécu nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, qu'on n'en est pas toujours conscient, et que même sans répéter, on répète pas les choses, mais on est imprégné de ça, on est construit de ça.
C'est ce que vous disiez sur la quatrième de couverture, Laurent Mauvignier, quand vous dites « j'ai tenté de ramener tous ces événements à la lumière pour comprendre ce qui a pu être leur histoire de mes aïeux ». Et son ombre portée sur la nôtre. C'est une phrase très importante, sachez-vous. L'ombre portée sur la nôtre. Comment, effectivement, ce que disait Lucas Bellevaux, par exemple, votre père qui se suicide sans explication, sans lettre écrite, disant « voilà pourquoi je me suicide », c'est quand même assez rare, d'une part, de pouvoir lire ce genre de témoignage. Ce père qui se suicide, vous le cherchez aussi à travers vos aïeux. Vous le cherchez dans l'histoire, vous le cherchez dans la manière dont vos personnages ont pu réagir à l'histoire.
On sait qu'on est effectivement construit par l'histoire de ceux qui nous ont précédés, et c'est important. Je trouve aujourd'hui de le répéter, parce que je suis parfois un peu sidéré, on en parlait tout à l'heure d'ailleurs, de voir comment on est à une époque de, je veux dire, de, où tout se joue sur une espèce d'actualité de présent immédiat qui veut se déconnecter de sa mémoire. Et c'est très grave, ça. Parce que si on perd le fil de ce qui nous relie à l'histoire, là, attention aux conséquences de ça. Là, je ne veux pas faire mon oiseau de mauvaise augure, mais ça, c'est quelque chose que je n'aime pas du tout. Parce qu'on ne naît pas comme ça de rien. On vient de quelque part. Et si on oublie ça, si on oublie toutes les histoires qui nous ont précédées, sachant qu'on en ignore une bonne partie, on a déjà un gros travail à faire, pas seulement du rapport à l'histoire, mais du rapport à nos histoires, pour essayer de se comprendre, nous, un peu au présent. Mais c'est aussi une façon de questionner l'avenir qu'on veut, et pas seulement pour nos enfants, mais aussi pour nous, quoi. Enfin, moi, c'est quelque chose qui m'inquiète dans notre époque, en fait. Et je sens, par exemple, qu'à La Maison Vide, de ce point de vue-là, on pourrait dire c'est un livre qui se pose la question du passé familial, mais d'un passé collectif aussi, pour interroger un peu notre rapport au présent et ce que nous désirons de notre avenir, quoi.
Vous, quand vous avez pris la plume il n'y a pas si longtemps, c'était en 2020, pour votre premier roman, Lucas Bellevaux, il y avait quelle envie de poser un peu la casquette de réalisateur et d'aller gratter un peu l'écriture? Vous avez aussi souvent adapté d'autres romanciers. Hein. Oui. Il y a eu Didier Decoing, par exemple.
Et Philippe Villain aussi.
Philippe Villain, ouais. Pour Pas son genre.
Absolument. Ouais. C'est un film que j'aime beaucoup.
Émilie Dequen, merveilleuse.
Ouais.
Et Loïc Corbery.
Absolument. Oui, quand j'ai décidé d'écrire en roman, c'est parce que je voulais retrouver du plaisir d'écrire que j'avais un peu perdu sur l'écriture des scénarios, parce que c'est très contraint, l'écriture d'un scénario. On écrit pour faire un film, on n'écrit pas pour faire lire le scénario. Et donc, il y a plein de choses, plein du plaisir d'écrire qu'on perd. Et donc, je voulais retrouver le plaisir d'écrire pour écrire, pour la phrase, pour le mot, et puis m'essayer, m'éprouver un peu là-dessus. Et donc, j'ai pris énormément de plaisir.
Avec une, me semble-t-il, une fiction, une vraie fiction. Vous inventez fiction, oui. Une sorte de chasse à l'homme. Écoutez, puisque c'est devenu un film qui va sortir à la mi-septembre, le 17. Qui va sortir le 17 septembre sur les écrans. Eh bien, une femme propose un pari à un homme brisé qui était légionnaire et qui aujourd'hui est SDF. Et elle a envie qu'il soit un peu son chevreuil.
Je veux que vous sachiez à quoi vous vous engagez. Je vous propose d'être mon gibier pendant un mois. Si à la fin de ce mois, vous êtes encore vivant, l'argent sera pour vous. Si je vous ai tué avant, on le donnera à votre famille. Est-ce que ça vous tente ?
Voilà. Est-ce que vous voulez bien être mon gibier ? Hein ? Est-ce que je peux essayer de vous tuer ? Vous avez un mois. Elle est dingue, cette idée.
Oui, l'idée est dingue. Mais ça provoque tout à coup de la fiction et ça provoque énormément de réflexions sur dans quel monde on vit, le rôle de l'argent, parce qu'elle lui propose beaucoup d'argent en contrepartie. Et puis ça pose aussi la question pour elle de savoir est-ce que je suis capable de tirer sur un homme. C'est une grande chasseuse ou chasseresse, je ne sais pas comment dire. Et donc le seul gibier qu'elle n'a jamais chassé, c'est l'homme. Et donc elle se dit, mais est-ce que je vais être capable de tirer sur un homme ? Est-ce que je peux faire ça ? Et puis il y a un troisième personnage qui est entre deux, qui est l'intercesseur, qui est un frère d'armes du futur gibier, qui l'a présenté à madame, donc quelque part qui le trahit. Pourquoi ? Et donc tout ça va les changer profondément. Enfin, ce contrat-là, ce pacte-là, va les faire évoluer, va les faire changer dans leur essence. C'est-à-dire que c'est des personnages qui, au début du film, ils sont pratiquement morts, ou ils sont morts, c'est une espèce de spectre, et ils vont ressortir plus humains et plus vivants. C'est ça l'histoire du film.
Vous avez envie de faire du cinéma, Laurent Mauvignier ?
Oui, alors c'était très amusant à l'époque où Lucas écrivait son livre, parce que moi j'étais en train d'écrire un scénario, donc on se faisait lire notre truc, alors c'était assez drôle cette sorte d'inversion. Mais lui, il a réussi à faire son livre, moi j'ai pas réussi à faire mon film. C'est ça la différence qu'il y a entre nous, ça viendra peut-être, mais...
Il y a un désir d'image chez vous.
Ah oui, bien sûr. Et c'est pour ça, moi je suis quand même assez fasciné, moi, j'ai vu les étapes du livre de Lucas, et puis après j'ai vu le film...
Les tourmenter.
Voilà, se construire. Donc je suis très heureux que j'ai l'impression d'avoir été là, sur tout le processus. Alors je suis évidemment fou de jalousie.
Laurent était le premier lecteur du roman.
Oui, vous êtes resté très lié depuis des hommes.
Oui, est-ce qu'on est très lié? Oui, on est assez lié. Surtout très admiratif de son travail. Ouais.
Vous êtes obligé de dire, moi aussi j'admire
le poète. Oui, mais je n'ai pas besoin de dire, je le sais.
Lucas Bellevaux, invité de Laurent Mauvignier dans le Grand Atelier, je vous propose d'écouter l'américaine du New Jersey, Sharon Van Etten, et puis on parlera de ce qui se passe d'autre dans l'actualité culturelle. Sharon Van Etten sur France Inter. Something ain't right. Chaque dimanche désormais, on jette un coup d'œil sur l'actualité culturelle de la semaine qui vient. Le palmarès de la Mostra de Venise tombe samedi prochain. 4 films français en compétition, dont 3 adaptations de romans. L'étranger de Camus par Ozon, film entièrement en noir et blanc avec Benjamin Voisin. Le mage du Kremlin par Assayas avec Jude Law. Et À pied d'œuvre de Valérie Donzelli d'après le livre de Franck Courtès avec Bastien Bouillon. Vous êtes breton, allez voir Animal à Landerneau, à la Fondation Leclerc. Il est question de la place de l'animal dans les représentations artistiques. L'animal étant l'un des premiers sujets de l'histoire de l'art. Plus de 150 œuvres à admirer dans cette exposition jusqu'au 2 novembre. Rennes nous regarde les yeux dans les yeux jusqu'au 14 septembre. La collection Pinault occupe le couvent des Jacobins avec des œuvres explorant les visages. Vous verrez des tableaux de Basquiat, des photos de Nan Goldin, de Cindy Sherman, des dizaines et des dizaines d'artistes traquent notre regard, nos expressions, nos émotions. À Perpignan, c'est le monde qu'on regarde les yeux dans les yeux à Visa pour l'image jusqu'au 14 septembre. Le festival des meilleurs sujets photojournalistiques venus du monde entier sont exposés entre autres Samuel Bollendorf, Eugène Richards, Cédric Gerbeuet. C'est gratuit. Et si vous ne pouvez pas vous y rendre, eh bien sachez que la plupart des expositions seront visibles sur le site du festival Visa pour l'image. Et puis à Paris, le festival d'automne commence samedi. Danse, théâtre, expo, art visuel, un sacré panorama de la création d'aujourd'hui. Laurent Mauvignier, c'est l'heure dans votre grand atelier de votre conseil culturel et je sais que c'est de la musique.
Lonely face.
que c'est beau, Birds on a Wire, repris par qui ?
Alors, Rosemary Stanley.
Rosemary Stanley.
Je l'adore. C'est tout ce que j'ai à dire, je l'adore.
Quand vous refermez l'ordinateur, c'est ça que vous écoutez ?
Entre autres, oui. J'écoute beaucoup ça.
Il y a un disque, il y a une tournée, il y a un concert, il y a quelque chose ?
Il y a un disque qui sort, je crois, au mois d'octobre, je crois.
Et ça fait partie de vos petits chéris. Pourquoi ? Alors, racontez-nous un peu.
Mais parce qu'en fait, il y avait un groupe qui s'appelait Moriarty, dont elle était la chanteuse, que j'aimais beaucoup. Je vis à Rennes, il se trouve qu'elle vit à Rennes, qu'on s'est rencontrés. Je l'ai vue dans d'autres choses, elle a joué un Carmen au théâtre, totalement, elle est incroyable, cette femme est incroyable. Et vraiment, elle fait des choses musicalement très différentes les unes des autres, c'est vraiment quelqu'un de... Moi, quand je l'ai découvert, je me dis, mais c'est pas possible, il faut que les gens, ceux qui la connaissent pas, il faut vraiment... Donc là, je profite de l'occasion.
Rosemary Stanley, le coup de cœur un petit peu amoureux de Laurent Mauvigné. Je me tourne vers Lucas Bellevaux, qui a déjà adapté un roman de Philippe Villain. Et Philippe Villain, il y a quelques mois, je crois que c'était en mars, a sorti un bouquin qui avait du bruit, puisqu'il était question d'une femme connue, d'une femme écrivaine avec qui il a eu une histoire, qui s'appelle Annie Ernaux. C'est comment le titre de ce livre ?
C'est Mauvais élève.
Oui, pourquoi il vous touche, ce livre ?
Ah, ce livre me touche parce que, plus que la partie où il parle de sa relation avec Annie Ernaux, ce qui m'a beaucoup touché, c'est comment il arrive à la littérature, comment il découvre la littérature. Et j'ai trouvé qu'il y avait un point commun avec un autre livre de Laurent, qui va sortir là en édition de poche, où Laurent raconte comment il écrit et comment il est venu à l'écriture.
Quelque chose d'absent qui me tourmente, entretien avec Pascaline David chez Minuit dans quelques jours.
Oui, il est sorti.
Voilà. Et dans le livre de Philippe, il y a des points communs avec ça, sur comment ces jeunes gens qui vivent en province, des milieux ouvriers, tout à coup, on ne sait pas par quel miracle, par quel mystère, et vont découvrir leur vocation et vont découvrir surtout la littérature, et ça va changer leur vie, ça va changer leur vision du monde, et c'est quelque chose qui me touche énormément.
Qu'est-ce qui faisaient vos parents ?
Oh, mes parents, ils étaient enseignants, mon père administrait un internat, et ma mère était institutrice.
Et Laurent, votre père était ouvrier ?
Mon père, il était d'abord ouvrier, après il était éboueur.
Et votre mère ?
Ma mère était femme de ménage.
Est-ce que votre mère vit toujours ?
Elle vit toujours, mais là, elle est totalement partie dans son imaginaire, justement. Là, elle est Alzheimer à un nom allemand. et c'est très troublant pour moi, et pour mes frères et sœurs aussi, de la voir, cette femme qu'on a toujours connue un petit peu ailleurs, là, elle est maintenant complètement ailleurs.
Elle se raconte des histoires, peut-être ?
C'est très troublant pour moi, en écrivant, justement, parce que... de voir qu'elle devient complètement ses histoires, en fait.
Est-ce que vous allez avoir le Goncourt, Laurent Mauvigné ?
Ah ben ça, c'est pas à moi qu'il faut le demander.
Beaucoup de garçons, notamment Jérôme Garcin, s'interrogent cette semaine dans l'Obs. Mais pourquoi il n'a pas encore reçu un des grands prix de l'automne ? Est-ce que c'est une petite question qui obsède quand on sort un livre en septembre et quand on est Laurent Mauvigné qui a 57-58 ans, qui a déjà beaucoup écrit ?
Je me dis, le Goncourt, ce qui serait bien avec le Goncourt, c'est de plus à avoir se poser cette question. En fait. Non, en fait, ça tourmente beaucoup de gens autour de moi.
Oui, on écrit beaucoup là-dessus.
En librairie, c'est quelque chose que Mais j'entends ça depuis 25 ans, donc ça, on s'habitue, c'est pas grave. Heureusement qu'on n'écrit pas en pensant à ça, quand même.
En vous rasant ?
Non, ouais, en me rasant, ouais.
D'ailleurs, vous portez la barbe.
D'ailleurs, je me rase plus, d'ailleurs.
La Maison Vide, Laurent Mauvigné, un roman important, je le crois vraiment. Et Lucas Bellevaux aussi le pense. Vous êtes publié toujours, vous êtes fidèle aux éditions de Minuit. Je vous souhaite le meilleur.
Merci.
Et Lucas Bellevaux, bonne sortie le 17 septembre, l'adaptation de votre roman Les Tourmentés. J'ai le plaisir cette année de travailler avec Christophe Imbert à la réalisation. Marion Guilbeault m'aide à préparer l'émission. Et c'est toujours Valentine Chédebois à la programmation musicale. Achille Aquemin était à la technique aujourd'hui. Samedi 17h, Clara Isée fera la balade sur France Inter. Et dimanche, même heure, on parlera encore de romans avec Maria Pourchet qui sort Tressaillir chez Stock.